déjà du temps de Ben Sirac, l'auteur avait craigné que l'occupation grecque et la culture hellénique, c'est-à-dire le fait de côtoyer de trop près des païens, risquait d'amener les juifs à transformer leur manière de vivre et de penser au point de délaisser l'alliance. Et c'est pourquoi le texte de Ben Sirac insiste autant sur la structure familiale, qu'il a peur qu'elle s'affaiblisse, alors que, comme aujourd'hui finalement, c'est bien évidemment la famille qui est pour une part un gage important de la transmission de la foi, des valeurs et des pratiques qui font vivre. L'Église a tellement conscience de cela qu'elle est en train de préparer un synode qui aura lieu au mois de novembre prochain. Le titre du document préparatoire s'intitule « Les défis de la famille dans le contexte de l'évangélisation ». Voilà, donc il y a un document de préparation qui a été envoyé il y a un mois pratiquement maintenant pour inviter les communautés chrétiennes à réfléchir aux défis de la famille dans le contexte de l'évangélisation. C'est-à-dire qu'est-ce que, notamment, la famille a à dire comme bonne nouvelle au monde d'aujourd'hui. Et puis, en parlant de monde d'aujourd'hui, comment les transformations de la famille, les divorces, les familles reconstituées, la question de l'homosexualité, les nouvelles méthodes de fécondité ou de fécondation, voilà, comment tout ça vient transformer notre mentalité et comment l'Évangile peut éclairer de façon nouvelle ces réalités pour faire en sorte que l'Église continue à être cette famille qui propose à tous une bonne nouvelle sans exclusive. Oui, donc Ben Sirac, déjà à son époque, s'inquiétait et essayait de transmettre ce qu'on pourrait appeler un idéal de la famille. J'aime pas tellement ce mot-là. Vous savez bien combien c'est risqué d'avoir un idéal un peu tout fait. On en a tous un, finalement. J'entendais des fois des gens à la sortie de l'église dire « Oh, cette famille, c'est vraiment l'idéal. Qu'est-ce qu'on voudrait leur ressembler ?» Ben, on risque bien de se planter. La Sainte Famille ne nous est pas donnée comme un modèle. D'ailleurs, est-ce qu'elle est un modèle quelque part ? Il y a un enfant unique. Joseph a été quand même perturbé par la maternité miraculeuse de Marie. Ils sont nés dans des conditions matérielles. Jésus est né dans des conditions matérielles misérables. Et puis cette famille, elle a été d'emblée poussée à l'exil. Et puis on verra plus tard dans 10 ans là, que lors du pèlerinage à Jérusalem, eh bien, l'enfant va fuguer, il va être perdu et retrouvé. Voilà, c'est pas un idéal, c'est pas un modèle, c'est un exemple. Mais en quoi finalement la Sainte Famille nous est donnée comme exemple ? Il ne s'agit pas d'imiter la Sainte Famille, il s'agit de devenir des familles saintes. C'est pas la même chose. Non pas de copier un modèle, mais finalement comment chacun de nous, parents, enfants, grands-parents et frères et sœurs, nous tendons à la sainteté pour que notre cœur se transforme progressivement et que nos relations familiales soient des relations marquées par l'amour de Dieu, par la sainteté de Dieu. Oui, l'exemple que donne Jésus n'est jamais un modèle extérieur à reproduire à l'identique, mais il nous faut regarder Jésus, contempler Jésus, pour progressivement trouver notre propre chemin d'incarnation et de relation. Toutes les vertus énumérées par saint Paul dans sa lettre aux Colossiens, entendues tout à l'heure dans la deuxième lecture, sont aussi des critères, des repères qui nous sont donnés. On imagine facilement ce que pouvait être la vie dans le foyer saint de Nazareth. Une vie sans doute simple et frugale, austère peut-être même par moments, pleine de respect mutuel et d'affection. On imagine facilement un climat joyeux, mais en même temps de silence, de recueillement, où la prière avait sa place, une application de tous les instants aux tâches quotidiennes. Oui, une certaine paix dans un ordre simple et convivial. On peut penser même que Jésus a appris particulièrement de Joseph l'amour du travail et du travail bien fait, et puis celui de l'obéissance, en voyant aussi que dans la Sainte Famille, comme dans chacune de nos familles, et il faut le souligner, si les parents éduquent leurs enfants, les enfants aussi aident leurs parents à grandir. Et même, dans l'Évangile, il nous est dit que les enfants deviennent modèles pour leurs parents. Si vous ne changez pas et ne devenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Le royaume est à ceux qui leur ressemblent. Il y a un mot qui peut nous déranger, qu'on a écouté chez saint Paul tout à l'heure, qui aussi est mentionné dans les évangiles. Après le retour d'Égypte, il nous est dit que Jésus entra à Nazareth et il était soumis à ses parents. Ça rigolait tout à l'heure au premier rang, là, quand il était question des femmes qui doivent être soumises à leur mari. Mais Marie, aimez vos femmes. Enfants, obéissez à vos parents. Oui. Mes parents, n'exaspérez pas vos enfants. Il y a bien quelque chose derrière cette expression pas très facile. Soumission qu'on va peut-être essayer de comprendre plutôt comme une dimension d'obéissance telle que l'Évangile nous la propose. On traite Paul de misogyne. C'est pas ça qui apparaît peut-être dans ce texte. La soumission au sens biblique n'a rien à voir avec de l'esclavage. Dans la société de Paul, cette société est fondée sur la responsabilité du père de famille. Eh bien, c'est le père qui a le droit et le fait, qui a de droit et de fait le dernier mot. Alors Paul commence par dire la phrase que tout le monde attend de lui. « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Voilà, c'est communément admis à l'époque. Mais il continue par une phrase autrement exigeante, adressée aux maris. Et celle-là, on n'attendait pas, à son époque en tout cas. « Et vous les hommes, aimez votre femme, ne soyez pas désagréables avec elle. » Pour Paul, il va de soi que l'époux chrétien est dans toutes ses paroles, ou devrait être dans toutes ses paroles, inspiré uniquement par l'amour et le souci des siens. Dans un tel contexte, la femme n'a aucune raison de se rebiffer puisqu'elle est aimée. On retrouve là le thème, je crois, habituel, plus facile à vivre, de l'obéissance. L'obéissance, c'est se mettre sous la parole d'un autre. Mes frères et mes sœurs, dit Jésus d'ailleurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Dans l'épître de Paul que nous avons écouté tout à l'heure, bien sûr on peut rester sur ce que je viens de commenter, mais le début est merveilleux. Relisons-le. Prenons le temps d'y revenir peut-être cette semaine. Revêtez votre cœur de tendresse et de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous mutuellement, ça ne veut pas dire t'es pénible mais je t'accepte quand même. Supportez-vous, ça veut dire soutenez-vous, jusque dans les difficultés, même si des fois c'est aussi de supporter. Et pardonnez si vous avez des reproches à vous faire. Agissez comme le Seigneur, il vous a pardonné, faites de même. Et par-dessus tout cela, qu'il y ait l'amour, c'est lui qui fait l'unité dans la perfection. Et que dans vos cœurs règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former en lui un seul corps, vivez dans l'action de grâce. Oui, comment nos familles sont des lieux où nous vivons dans l'action de grâce, la reconnaissance, la gratitude. Et puis ensuite, voilà l'obéissance. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Que la parole du Christ habite dans vos familles, dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres avec une vraie sagesse. La soumission à laquelle Paul nous invite, c'est cette obéissance de la foi, ce discernement auquel sont invités bien évidemment les parents, mais aussi les enfants, à essayer ensemble d'être à l'écoute de cette parole de vie. qui est une exigence, vivre cet exigeant, mais une exigence qui se vit dans le cadre d'une confiance, d'une sécurité offerte par la tendresse et l'amour. L'enjeu est toujours celui de la liberté, d'accueillir finalement les parents qui nous sont donnés, les enfants que nous recevons, les frères et sœurs qui nous sont donnés, pour les aimer non pas comme un devoir, mais avec une liberté nouvelle, celle de pouvoir percevoir chacun comme une parole et avec la parole qu'il représente, avec cet éclat de vie unique qui lui est donné et qui fait la richesse de toute la famille. Oui, que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse, ça nous renvoie bien à cette sainteté à laquelle nous sommes invités, à cette écoute constante de ce que le Seigneur essaie de nous dire dans l'incarnation de notre famille. J'ai envie de finir en revenant sur le texte de Ben Sirac. Il parlait, puisque je parle de famille, donc je parle des parents et des enfants, donc on voit plutôt les jeunes années. Puis il y a l'autre bout de la vie. Honore ton père et ta mère. Dieu nous invite à honorer nos parents, c'est-à-dire à reconnaître en eux et par eux la vie que Dieu nous a donnée. Et ça, on en sera redevable jusqu'au bout. Et en même temps, nous voyons bien combien dans le monde qui est le nôtre, c'est compliqué, c'est difficile d'honorer ses parents jusqu'au bout. Cette fête de la Sainte Famille nous renvoie aussi à cette responsabilité-là. Il y a plusieurs parmi vous qui visitent régulièrement les EHPAD ou les maisons de retraite. Quelle responsabilité nous avons à chaque génération envers ceux qui sont nos aînés, nos parents, nos grands-parents. Oui, la Sainte Famille, c'est une famille qui dépasse le petit noyau parents-enfants. Et nous savons bien, en voyant la famille de Jésus, que c'est même au-delà des frontières du sang. Alors demandons au Dieu amour qu'il nous habite toujours davantage, qu'il nous aide à revisiter et à accueillir à nouveau frais ces liens de famille proches, plus lointains, qui sont les nôtres, les blessures, les déchirures qui existent en sachant que la paix de Noël, c'est là qu'elle doit venir aussi. C'est là qu'elle s'invite. Oui, que cet amour, cette sainteté à laquelle nous sommes invités, nous laissions Dieu nous inspirer, nous faire entendre sa parole pour qu'elle puisse s'incarner au cœur de nos familles.